Géopolitique, Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le 5 août 2019 restera comme une date noire dans l'histoire du Cachemire, cette région montagneuse de l'Himalaya que l'Inde et le Pakistan se disputent depuis 72 ans. Le 5 août, le gouvernement indien de Narendra Modi annonce l'abolition du statut d'autonomie dont jouissait depuis 1947 le Cachemire indien à majorité musulmane. Un coup de force qui ravit les nationalistes du BJP, le parti au pouvoir en Inde, consterne la communauté internationale et provoque la colère du Pakistan voisin qui dénonce une décision illégale. Alors pourquoi Narendra Modi a-t-il pris le risque d'embraser une région considérée comme une poudrière ? Sa décision est une victoire du nationalisme hindou, mais à quel prix et pour combien de temps ? New Delhi et Islamabad se sont déjà livrés 3 guerres pour le contrôle du Cachemire. Une 4e est-elle possible ? L'abolition de l'autonomie risque-t-elle de provoquer un soulèvement général du Cachemire ? On en débat avec nos invités et je précise que cette émission a été enregistrée le 29 août. Gilles Bocquera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l'Asie du Sud. Jean-Joseph Boileau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'économie indienne. Et Olivier Dallage, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes rédacteur en chef à RFI, spécialiste de l'Inde et du Golfe. On va d'abord faire un retour en arrière pour comprendre pourquoi le Cachemire est depuis 72 ans une terre de convoitise. Gilles Bocquera, tout remonte à la partition des Indes britanniques en 1947.
Oui, absolument. Il faut revenir en fait à l'India Independence Act de juillet 1947 qui disait que les états princiers, il y a environ 560 états princiers à l'époque dans ce qui est encore l'Empire des Indes, chaque prince devait se décider pour savoir est-ce qu'il adhérerait aux nouveaux états, le Pakistan, l'Inde, ou resterait indépendant. Au Cachemire, au royaume du Jammu Cachemire à l'époque, on a en fait à la tête de ce royaume un maharaja hindou qui gouverne une population très majoritairement musulmane. Et ce maharaja, donc, choisit de ne pas choisir, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'automne 1947, il y a des forces venues du Pakistan, des forces tribales épaulées par des forces militaires pakistanaises aussi, qui envahissent le royaume du Jammu Cachemire, avancent sur la capitale, Srinagar, et sous cette menace venue du Pakistan, le maharaja signe le traité d'accession à l'Inde. Traité d'accession qui, dans les termes, prévoit que l'Inde n'aura à gérer que les communications, la défense et la politique extérieure.
Et c'est Nehru qui accorde à l'État du Cachemire ce statut d'autonomie dont on parle aujourd'hui.
Oui, alors c'est le fameux article 370 de la Constitution indienne qui est donc adopté en 1950 et qui prévoit que le Jammu Cachemire aura une très large autonomie. Mais en fait, ce qu'on voit au fil des décennies, c'est que cette autonomie sera peu à peu rognée, en fait. Hein. Il y aura de plus en plus d'interventionnisme de Delhi, ce qui amènera d'ailleurs les élections de 1987, manipulées, truquées, diront les Cachemiris, et qui aura un élément, qui sera un élément déclencheur sur cette insurrection qui se vraiment prend effet à partir de 1989. Et depuis, on est dans cette phase insurrectionnelle depuis 30 ans, en fait.
Et une première guerre va éclater entre l'Inde et le Pakistan, Olivier Dallage. Elle va durer 2 ans. Pour quel résultat ? De 47 à 49 ?
Pour le résultat d'une autre partition, qui est celle du Cachemire, faisant suite à la partition des Indes britanniques. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une ligne d'armistice qui s'établit, faute de pouvoir obtenir un résultat décisif pour l'un ou pour l'autre. Alors après, il y aura quelques petits changements et elle sera formalisée par un accord qui fait suite à une autre guerre, les accords de Simla en 72. Et cette ligne est appelée ligne de contrôle et on peut la considérer comme une frontière de fait qui est reconnue juridiquement, même si ça n'est pas une frontière résultant d'un accord de paix.
Et pourquoi est-ce que le Pakistan voulait absolument garder le Cachemire pour lui ? Et pourquoi l'Inde a la même revendication ? Parce que c'est pas facile de gérer, même en lui accordant l'autonomie, un territoire hostile, entre guillemets.
Le Cachemire, c'est, on appelle ça la Suisse de l'Himalaya, ça avait une réputation extraordinaire, mais on est en train de réécrire l'histoire, c'est-à-dire qu'à l'époque dont on vient de parler, ni le Pakistan ni l'Inde ne tenaient vraiment au Cachemire. C'était quelque chose en plus. l'Inde tenait absolument à deux autres états princiers qui s'étaient pas encore décidés, Junagadh, qui est pas très grand, qui est actuellement au Gujarat, et surtout le grand état princier de Hyderabad, qui est en plein cœur de l'Inde. Et c'était la priorité absolue d'avoir ce territoire relevant de l'Inde et non pas du Pakistan, sinon on aurait eu un Pakistan au milieu de l'Inde. Et donc les dirigeants de l'époque tenaient au Cachemire, mais pas plus que ça. Et pour le Pakistan, c'est exactement la même chose. Donc ça s'est presque joué sur un coup de dé. Et quand on dit que c'est Nehru qui a donné l'article 370, c'est vrai, mais en partie seulement. En fait, c'est le gouvernement indien dans son intégralité, y compris le grand rival, ami et collègue de Nehru, Vallabhbhai Patel, qu'aujourd'hui le gouvernement indien s'approprie en quelque sorte comme étant l'ancêtre de la politique actuelle. Ce n'est pas vrai du tout, puisque, pour être très précis, jusqu'au 13 septembre 1947, Patel était prêt à abandonner le Cachemire pour avoir la sécurité de Junagadh et de Hyderabad. C'est seulement quand les Pakistanais ont fait une erreur tactique que Patel s'est retourné et l'Inde a réussi à emporter les trois États.
Alors l'ONU a adopté des résolutions en 1949 pour tenter de régler la question du Cachemire. Retrait des troupes pakistanaises du territoire cachemirien indien et organisation d'un référendum. Pourquoi est-ce que personne n'a obéi à ces résolutions?
Faudra peut-être revenir sur le fait que le Pakistan tient beaucoup au Cachemire. Hein. Faut pas oublier que la création du Pakistan s'est faite sur une base que tous les États princiers ou régions dirigées directement par le gouvernement britannique, à majorité musulmane, devaient intégrer le nouvel État, à condition qu'il soit contigu. C'est comme ça que le Pakistan a vu le jour, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, faut pas l'oublier à l'époque. Et il se trouve que le Jammu et Cachemire est contigu du Pakistan qui naît en 47. Donc pour les Pakistanais, c'est une cause sacrée. Il faut savoir tout de même qu'au Pakistan, il y a tous les ans, il y a un Kashmir Day, donc un jour de solidarité en faveur des populations cachemiries sous le joug indien. Imran Khan, il y a quelques jours,
le premier ministre pakistanais
a dit que les Pakistanais devaient une fois par semaine, pendant une demi-heure, montrer d'une façon ou d'une autre leur solidarité avec les cachemiries opprimées en Inde. Donc pour le Pakistan, le sort du Cachemire est vraiment une cause sacrée.
Et pour l'Inde, qui a refusé d'organiser ce référendum demandé par l'ONU?
Pour l'Inde aussi, un volet stratégique. Hein. Le Cachemire, il ne faut pas l'oublier, est frontalier de la Chine, est là où coule l'Indus et ses affluents. Donc c'est aussi un réservoir en eau pour l'Inde, très important.
On l'appelle le château d'eau.
Le château d'eau, absolument. Pourquoi il n'y a pas eu de plébiscite? Bon, les Indiens ont dit à l'époque, dans les années 50, on ne fait pas de plébiscite parce que les termes du plébiscite prévoyaient que de deux parties, on devait retirer les troupes des régions qui avaient été occupées au cours du premier conflit en 47-48. Et les Indiens ont toujours pris peut-être que les Pakistanais ne retirant pas leurs troupes, il n'y a pas raison d'avoir un plébiscite. Bon, en fait, on sait que les Indiens aussi n'étaient pas très chauds pour se retirer de ce Jammu Cachemire, qui encore une fois a une importance stratégique non négligeable. Hein. On n'est pas très loin du Pakistan, des grandes villes pakistanaises. Islamabad, à vol d'oiseau, n'est pas très loin de la frontière, de la ligne de contrôle dont on a parlé tout à l'heure.
Donc, enjeu stratégique, est-ce que le Cachemire, Jean-Joseph Boileau, revêt aussi un enjeu économique?
Eh bien, de plus en plus. J'ai le sentiment que tout ce qui est, et on y reviendra sans doute, dans la réaction internationale sur ce dossier, tant au Moyen-Orient qu'en France, dans la façon dont le président Macron a discuté ou pas vraiment discuté du sujet ou au G7, témoigne d'un fait majeur. C'est la guerre économique entre le Pakistan et l'Inde s'est terminée. L'Inde a plus que gagné. L'Inde devient une puissance économique, peut-être pas de premier plan comme la Chine, mais cette affaire-là du Cachemire, là, maintenant, c'est le reflet de l'émergence d'une puissance, y compris sur le plan économique. Et le problème du Pakistan va être désormais de gérer cette nouvelle phase où, en gros, le rapport des produits intérieurs bruts entre les deux est désormais de 1 à 10. Les chiffres bruts, des fois, donnent plus de sens des réalités. Le produit intérieur brut du Pakistan, c'est 300 milliards de dollars. Et le produit intérieur brut de l'Inde, à peu près, c'est 3000 milliards de dollars. Ouais, on n'est plus du tout. Alors que quand j'ai commencé à travailler sur la région, dans les années 80, le Pakistan était présenté comme l'économie dynamique. Et donc, il y avait une sorte de possibilité pour le Pakistan sur cette affaire du Cachemire, qui était de jouer la carte de devenir un leader économique et finalement de récupérer. La stratégie indienne a été, comme le proverbe indien le dit, goutte à goutte, le bassin se remplit. Eh bien, le bassin maintenant s'est rempli. L'Inde est devenue une véritable puissance économique. Elle est, en termes de produit intérieur brut, calculée en parité de pouvoir d'achat, hein, c'est-à-dire au prix intérieur, troisième du monde maintenant. Et en termes de taux de change courant, elle vient de dépasser la France cette année. Et dernier élément, et la Chine est sur la table du Cachemire, ça, j'en suis personnellement convaincu, pour en revenir de Chine. Hein, je suis allé du côté du Tibet en particulier.
Parce que la Chine possède donc une partie du Cachemire, elle aussi, l'accès à la Chine.
Et elle revendique un État comme le Ladakh quand même.
Et donc l'accès à la Chine que l'Inde revendique.
Bien sûr. Donc, il y a l'affaire Pakistan-Inde, et puis il y a, je pense, en toile de fond, la grande bagarre des géants à l'échelle de la planète, qui est le positionnement de l'Inde vis-à-vis de la Chine. Et c'est terrible pour les Cachemiris, que je connais bien, dont, fondamentalement, je pense que mes deux voisins confirmeront, c'est la question du droit des peuples à l'autodétermination qui est posée. Et non pas la question de savoir si c'est au Pakistan que la région revient ou pas. S'il y avait un plébiscite avec cette option qui est d'être un pays indépendant, la Suisse de l'Himalaya serait un pays indépendant. Donc on est face à
Alors
un
justement.
Drame qui est deux voisins et ennemis qui se bagarrent pour un territoire, et puis en toile de fond désormais une nouvelle géopolitique mondiale dans laquelle l'Inde apparaît comme le seul contrepoids possible de l'ennemi de tout le camp occidental, la Chine.
Alors justement, Olivier Dallage, qu'est-ce qui a provoqué dans les années 80 l'essor des aspirations à l'autodétermination des Cachemiriens ?
Je pense que c'est par défaut, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être pris en tant qu'individu. Et il y a un livre qui est paru l'an dernier, c'est un livre d'entretien animé par un journaliste indien entre deux anciens chefs des services de renseignement, celui du Pakistan et celui de l'Inde. C'est un peu répétitif et un petit peu long, mais c'est quand même très intéressant. Parce que l'ancien chef des renseignements indiens, qui par ailleurs avait été chef de la police secrète au Cachemire pendant longtemps, donc il connaît très très bien la zone, n'arrête pas de parler du cachemirien, avec un C majuscule, l'homme cachemirien ou la femme cachemirienne. Et il veut par là souligner à quel point New Delhi, mais pareil à Islamabad, considère finalement le Cachemire comme un pion sur un échiquier, mais on se préoccupe pas des gens qui y vivent. Or, là où l'Inde a complètement échoué, c'est à se rendre sympathique auprès des habitants, et on en a la preuve tout récemment par l'incarcération ou la mise en résidence surveillée de toute la classe politique cachemirienne, y compris ceux qui étaient favorables à l'Inde.
On parle de 4000 arrestations.
Oui, dont les chefs politiques qui étaient, pour certains d'entre eux, en alliance avec le BJP jusqu'à récemment. Et donc aujourd'hui, vous trouverez plus grand monde au Cachemire pour voir l'Inde comme leur avenir. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'ils veulent rejoindre le Pakistan, mais ça c'est une autre affaire. Quant à l'indépendance, bon ça c'est un rêve un petit peu évanescent. Mais voilà, le fait d'avoir perdu le Cachemire en tant qu'amitié, âme, tout ce que vous voulez, est essentiel pour comprendre ce qui va se passer désormais entre l'Inde et le Cachemire.
Mais est-ce que les, Gilles Bokhara, est-ce que les services secrets pakistanais ont été à la manœuvre en coulisses pour appuyer le début de l'insurrection séparatiste au Cachemire dans les années 89 ?
Oui, si on date le début de l'insurrection, enfin de cette nouvelle phase, parce que c'est pas la première fois que Cachemire on s'agite, hein, et qu'on revendique l'autodétermination. Et il est sûr que dans le contexte de 89, il faut remettre ça donc dans le contexte de l'époque, c'est le moment du retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Les services secrets pakistanais se retrouvent avec un pool de djihadistes qu'il faut, à la limite, on peut recycler en partie au Cachemire. Donc finalement, il y a un lien avec l'Afghanistan déjà à l'époque. D'ailleurs, c'est toujours une crainte aujourd'hui aussi d'un règlement politique en Afghanistan qui remettrait en selle les talibans à Kaboul, et en Inde on s'inquiète beaucoup de voir les talibans avoir un rôle important à Kaboul et les implications de ce que pourrait y avoir au Cachemire indien.
Et alors New Delhi va répondre à cette tentative d'insurrection par une répression féroce qui va aboutir à encore plus de radicalisation et aux attentats suicides.
Bah, c'est évidemment le risque. Et puis le risque derrière ça, c'est une situation comparable à celle qu'on a connue en février 2019, quand un jeune Cachemiri qui avait fait allégeance au Jaïch-e Mohammed a commis un attentat qui a fait 40 morts parmi les forces de sécurité indiennes. À suite de quoi, il y a eu l'escalade entre l'Inde et le Pakistan. Donc effectivement, il y a toujours ce risque, et c'est vraiment ce qui peut-être inquiéter le plus les chancelleries occidentales. C'est qu'on se retrouve dans un schéma comparable où un attentat commis contre les forces de sécurité, et elles sont nombreuses, effectivement, plus d'un demi-million au Cachemire, qui amène le gouvernement indien à pointer du doigt la responsabilité des Pakistanais, que soit avérée ou non d'ailleurs, et qu'on repart dans une situation comparable de franchissement de la frontière par avec des frappes aériennes indiennes sur le territoire pakistanais et une nouvelle escalade. Là, effectivement, le danger.
Olivier Dallage, vous êtes d'accord? C'est l'attentat de Pulwama, donc le 14 février, qui a tué une quarantaine de soldats indiens, qui a été l'élément déclencheur pour Narendra Modi?
Ça a peut-être été l'élément déclencheur, mais ça a déclenché quelque chose qui était déjà en marche. Je crois maintenant qu'il faut pas oublier que la fin du statut spécial du Cachemire est au cœur de la revendication des nationalistes hindous depuis l'indépendance. Le BJP n'existait pas encore, que ses prédécesseurs demandaient déjà l'abrogation de l'article 370. Il y a trois articles de foi chez les nationalistes hindous: la fin du statut spécial du Cachemire, la reconstruction ou la construction, comme vous voudrez, du temple de Ram sur la mosquée d'Ayodhya qui a été détruite par les nationalistes hindous, et puis le code civil uniforme, c'est-à-dire essentiellement hindous, en supprimant le statut particulier des musulmans, des jaïns, des chrétiens, etc., etc. Et donc, on a commencé avec le Cachemire, et c'est assez fort, parce que ça a été fait à un moment de grand désarroi de l'opposition qui a perdu les élections qui viennent d'avoir lieu, et au sein des partis d'opposition, beaucoup de nationalistes indiens qui sont pas pour autant des nationalistes hindous, trouvaient anormal aussi les dispositions particulières dont bénéficiait le Cachemire, en laissant de côté le fait que beaucoup d'États indiens, et ça va jusqu'au Gujarat et au Maharashtra, qui sont quand même des États centraux, ont également des dispositions favorables à leurs propres ressortissants et qui éliminent les autres. Je ferme la parenthèse. Et donc, il y a une conjonction de croyances très profondes et très anciennes et d'opportunités politiques saisies par Narendra Modi.
Jean-Joseph Boileau.
L'économie n'explique pas du tout. Mais elle a joué, me semble-t-il, un certain rôle dans le déclenchement de l'opération. En effet, en toile de fond, il y a depuis janvier 2018 un ralentissement économique assez marqué, qui s'est paradoxalement accentué, ce ralentissement économique, après les élections. Et il y a 15 jours d'ailleurs, l'économiste en chef de la Planning Commission, qui est juste après Modi, Rajiv Kumar, qui a tweeté « Il y a une crise de liquidité massive en Inde ». Et donc Modi arrive, voit cette économie qui commence un peu à retomber, la consommation baisse, l'investissement est à son plus bas niveau depuis 20 ans. Il y a, je pense, en toile de fond, cette idée que il faut passer de l'agenda économique à l'agenda politique ou idéologique. Et donc, l'affaire du Cachemire, c'est béni. Parce qu'on joue sur la fibre nationaliste, ce registre. Et je le vois encore, la façon dont Rajiv Kumar... Rajiv Kumar, qui est donc le vice-chairman de la Planning Commission, qui est en Inde, qui continue de jouer un rôle très très important sur le plan de la politique économique, et qui avait tweeté sur la catastrophe de cette crise de liquidité, et qui en même temps donc tweet sur le Cachemire en disant de toute façon ce n'était plus tenable, il fallait agir, et qui tout d'un coup est suivi par des dizaines de millions de milliers de followers qui montrent à quel point on occulte ces difficultés économiques par ce nouveau dossier qui effectivement, comme le disait Olivier, est extrêmement populaire au point d'avoir encore une fois divisé l'opposition, le Congrès, etc. Je crois qu'il a gagné la bataille pour l'essentiel au niveau interne en Inde, non pas seulement de l'opinion publique, mais aussi de la classe politique. Ça, c'est un coup de maître, et je pense que l'arrière-plan économique d'une situation extrêmement médiocre a joué un certain rôle, d'autant plus que la crise du Cachemire a provoqué, ce que personne n'attendait, un véritable plan de relance économique dont on ne pensait pas qu'il atteindrait cette ampleur-là. Ils viennent de mettre 22 milliards de dollars sur la table pour recapitaliser les banques indiennes qui étaient tellement engluées dans les mauvais prêts que elles ne prêtaient plus, donc il n'y avait plus de cycle d'investissement, et on pense que ça va relancer la machine économique. Ça joue un certain rôle, me semble-t-il.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre des conséquences de la décision indienne de supprimer l'autonomie du Cachemire. À tout de suite.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique en supprimant le 5 août dernier l'autonomie du Cachemire. Pourquoi le Premier ministre indien Narendra Modi a-t-il pris le risque d'embraser une région considérée comme une poudrière? On continue d'en débattre avec les chercheurs Gilles Bocquera et Jean-Joseph Boileau et le journaliste Olivier Dallage. Olivier Dallage, est-ce que l'on sait ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur du Cachemire indien qui dans un premier temps a été soumis à un blackout total? Les taux commencent à se desserrer et on a des témoignages sur ce qui se passe à l'intérieur.
Alors on ne sait pas tout parce qu'effectivement, beaucoup de communications restent coupées, qu'on ne peut pas visiter librement le Cachemire, que beaucoup de gens se sont fait refouler ou interdire de prendre un vol pour Srinagar. Il y a quand même eu quelques visiteurs qui ont rendu compte de ce qu'ils ont vu, ça n'est pas très gai. Les lignes fixes ont pour une bonne partie été rétablies, donc les familles peuvent à nouveau communiquer avec leurs proches. Et ce qu'on entend le plus souvent, c'est un couvre-feu maintenu de manière extrêmement stricte, même si officiellement ça n'est pas un couvre-feu, c'en est quand même un. D'ailleurs, le mot est employé couramment dans les médias indiens. Et on a le sentiment très clair que dès qu'on relâche un petit peu les choses, les gens commencent à manifester leur mécontentement, donc on remet le couvercle. Pour l'instant, le seul sentiment qu'on a, au vu de tous les témoignages, c'est qu'à l'instant même où on relâchera les restrictions, eh bien les manifestations commenceront et la répression avec.
Jean-Joseph Boileau.
Oui, sur un plan économique, c'est assez bizarre ce qui est en train de se passer. On a dit que le thème moto à New Delhi, c'est l'aide économique et on va ouvrir le Cachemire parce qu'il faut savoir que l'article 370 comportait des limitations importantes en termes d'achat des terres, d'ouverture d'une entreprise si vous n'étiez pas cachemiri et autres. Ce n'était pas un État économiquement intégré au marché indien. Le paradoxe, c'est que le Cachemire va subir deux impacts économiques extrêmement négatifs. Le premier, c'est ce qui était dit sur... vous avez une armée d'occupation de 700 000...
500 000 hommes.
Ouais, non, c'est
plus 46 000 paramilitaires.
C'est au moins 700 000. Mais surtout, c'est la réaction aujourd'hui, le mode de politique de lutte qui est en train de se mettre en place par les Cachemiris eux-mêmes. Hein. C'est une tradition d'ailleurs indienne très forte, c'est Hartal, c'est le blocage complet du pays. Il y a une grève où tout est fermé. Tout est fermé. J'ai l'information par un ami cachemiri qui est aux États-Unis, qui lui reçoit l'information. Les magasins sont fermés, les écoles sont fermées, etc. Zéro. Il se passe plus rien. Donc on risque d'avoir, vous voyez, entre ce scénario où il y aurait la guerre, les affrontements entre l'armée indienne et puis les cachemiris militants, etc. Donc c'est sur le plan économique, bah c'est Gaza, c'est un peu le scénario palestinien. Et puis il y a l'autre scénario, et on verra lequel va l'emporter, ou peut-être ça sera un balancement entre les deux, qui est le blocage complet du pays, mais qui sur le plan économique a exactement les mêmes conséquences. Donc le pari qui était de dire... Bon, allez, l'article 370 n'a pas réglé les problèmes depuis 30 ans, donc on va essayer de jouer sur la carte économique pour relancer une certaine prospérité au Cachemire, faire venir l'investissement, etc. L'avenir est complètement bouché. Bouché. Et donc, c'est ça qui, à mon sens, est extrêmement inquiétant. Moi, ce qui me paraît important dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces poches qui ne sont pas des petites poches, c'est des dizaines de millions d'habitants des fois, là, c'est, je crois, 10-12 millions d'habitants pour les Cachemiris. Mais c'est vrai aussi à Hong Kong. C'est vrai. On voit se multiplier dans le monde hein, ces poches dans lesquelles il y a les géants qui essayent de poser le couvercle et qui, sur le plan économique, a, en tout cas pour le Cachemire, des conséquences extrêmement négatives. Extrêmement négatives.
Gilles Bocquera, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a accusé l'Inde le 11 août de vouloir se débarrasser des musulmans, de se livrer à un nettoyage ethnique, de préparer un génocide d'inspiration nazie. Il a aussi fait le parallèle avec le massacre de Srebrenica en Bosnie en 95. Est-ce qu'il a raison de s'alarmer? Et est-ce que ces mots vous paraissent sonner juste ou est-ce que c'est un peu exagéré?
Oui, Imran Khan n'a pas fait dans la demi-mesure, c'est moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, c'est des types d'arguments qui sont repris dans la presse pakistanaise par de nombreux analystes. Hein. Finalement, on parle de nationalistes hindous qui seraient des nazis. Enfin, les termes sont assez crus et assez forts. Hein. Effectivement, on parlait tout à l'heure de l'article 35A de la Constitution, donc qui a été également supprimé, qui faisait que des non-résidents au Cachemire n'avaient pas le droit d'avoir des terres au Cachemire. Alors maintenant, évidemment, ce que mettent en avant d'ailleurs les Pakistanais, c'est l'ambition des nationalistes hindous, c'est favoriser une migration hindoue vers le Cachemire, qui, je le rappelle, était à ce jour le seul État de l'Union indienne, qui n'est plus un État maintenant, mais un territoire de l'Union, État de l'Union indienne, avoir une majorité musulmane. Donc, c'est l'idée que ça fait partie d'un agenda des nationalistes hindous, de hindouiser, entre guillemets, la vallée du Cachemire. Encore une fois, je vous ouvre une parenthèse, quand on parle de l'ancien royaume du Jammu et Cachemire, c'est trois entités en fait. Hein. C'est le Jammu au sud qui est majoritairement hindou, c'est la vallée du Cachemire qui est majoritairement musulmane et de très loin. Et effectivement, il y a le Ladakh à l'est qui est moitié musulman, moitié bouddhiste. Hein, parce qu'effectivement, il y a Jammu Kargil qui est tout à fait musulmane, chiite. Donc effectivement, il y a cette idée mise en avant au Pakistan que l'ambition finalement des nationalistes hindous, c'est
de favoriser l'équilibre professionnel.
Absolument, faire un changement ethnique au Cachemire et en faire une région qui, à travers l'abolition de cet article 35A, ne favoriser l'implantation d'hindous à travers des projets de développement économique mis en avant par Narendra Modi, et supprimer ce seul État majorité musulmane en Inde.
Mais cette colonisation hindoue, entre guillemets, elle vous paraît plausible ou pas? Est-ce qu'elle figure dans l'agenda des nationalistes du BJP, Olivier Dallage?
D'abord, il y a le retour de ceux qui ont été expulsés de fait de la vallée du Cachemire, ce qu'on appelle les pandites cachemiris, qui sont des hindous, et qui, dans la vague de violence qui a commencé en 89, ont été contraints à la fuite. Donc, de ce point de vue-là, il y a le rétablissement d'une injustice que la majorité hindoue de l'Inde veut vraiment corriger. Donc on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé non plus de ce côté-là. Mais au-delà de ça, il y a effectivement l'idée que la masse des hindous, on parle quand même de plus de 80% de la population du pays, devrait permettre d'atteindre cet équilibre démographique, voire de le renverser, à supposer naturellement que ça ne génère pas des attentats terroristes contre les nouveaux colons. Et là, la comparaison avec Gaza et la Cisjordanie vient immédiatement à l'esprit.
Parce que la répression risque de renforcer encore le sentiment indépendantiste et les aspirations à l'indépendance.
Oui, je voulais sur le plan économique faire un rapprochement qui est avec ce qui se passe juste de l'autre côté, en Chine. Parce que ils ont repris l'image d'Hitler, des nazis, etc. Mais c'est pas Imran Khan qui a créé cette problématique-là. Elle est créée en Inde même. Faut faire attention. Hein. La question de la fascisation du régime de Modi, c'est d'abord une thématique indienne et pas pakistanaise. C'est récemment que le Pakistan a notamment vu dans la presse, on a vu ses croix gammées sur le drapeau indien, etc. Mais ça, c'est relativement récent. C'était à l'intérieur de l'Inde. Mais pour reprendre cette comparaison avec Chine, c'est intéressant de voir parce que en Chine, on a le Xinjiang et le Tibet, qui sont finalement assez comparables à cette question des grands empires qui ont été formés après la guerre, avec des peuples emprisonnés dans des frontières qui héritaient des rapports de force de l'époque. La Chine a joué et joue cette carte de l'intégration économique. Ça, j'ai pu le voir, c'est des milliards de dollars investis par le gouvernement chinois pour jouer cette stratégie-là de l'intégration et de la dilution. Enfin, ces peuples sont effectivement, vous avez des masses de migrants chinois qui arrivent, les rues commerçantes sont données, les pales de commerce sont données aux Chinois, etc. Donc, et c'est intéressant de voir, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas, d'une certaine façon. Alors, il y a moins de, sur le plan politique, d'action de masse au Tibet, mais au Xinjiang, on est loin d'avoir réglé la question, et là, la question qui se pose, c'est celle du génocide d'un peuple. Je veux dire, ce sont des millions aujourd'hui de musulmans au Xinjiang qui sont dans des camps, et c'est des camps qui sont des camps de concentration. Donc même la Chine a du mal à jouer cette carte de l'intégration économique. Dans le cas indien, c'est deux fois moins plausible. Un, parce que l'État indien n'a pas la puissance de l'État chinois, n'a pas les milliards pour investir. Et deuxième raison, à mon sens, de l'échec très probable de cette stratégie de l'intégration économique, c'est la géographie. Le Tibet, c'est pas d'une géographie très facile. Le Xinjiang, déjà un peu plus, mais il y a des matières premières dans les deux, etc. Donc, sur le plan géographique, il y avait, du point de vue de Pékin, une raison d'avoir cette stratégie et de jouer cette stratégie, et elle gagne, sur le plan économique, beaucoup de choses. Dans le cas indien, le Cachemire, c'est une région qui est complètement enclavée, pour y être allé, moi aussi, presque à Dodan, si vous voulez. On peut pas en faire un paradis économique. Enfin, il y a aucune raison qui puisse alimenter des investissements privés et publics qui dépasserait la crise politique. Donc je pense que le problème de New Delhi, ça risque d'être plutôt de n'avoir plus qu'un seul scénario, c'est celui de la West Bank de Cisjordanie.
Olivier Dallage.
Oui, d'un mot. Faudrait pas laisser croire que le Cachemire est un État indien parmi les plus pauvres. C'est tout le contraire. Bien sûr, la tension qu'on connaît depuis 2016 a pas arrangé les choses sur le plan économique. Mais toutes les statistiques du Cachemire montrent qu'il se situe plutôt parmi l'ensemble supérieur, les moyennes supérieures des États indiens. Les chiffres sont plutôt bons. Donc l'article 370, en tant que tel, n'a pas freiné le développement du Cachemire. C'était sans doute inadapté. Peut-être qu'il fallait le lever. La façon dont ça a été fait, c'est autre chose.
Gilles Bokhara, à part les condamnations de principe, les réactions de la communauté internationale ont été plutôt timides après le coup de force de Narendra Modi. Est-ce qu'aujourd'hui l'ONU est impuissante face à la politique du fait accompli ? Le Pakistan a demandé le déploiement de casques bleus au Cachemire. Est-ce qu'il a une chance d'être entendu ?
Les Nations Unies sont déjà présentes au Cachemire d'ailleurs. Il y a une force qui est en charge depuis 47-48, après la déclaration du cessez-le-feu à l'époque, qui est déployée sur la frontière est du pays.
Voilà, mais donc ils réclament le déploiement sur tout le territoire du Cachemire indien.
Oui, non, mais ils peuvent toujours le demander. Effectivement, ça sera certainement pas suivi des faits, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la réaction internationale a été très, très, très mesurée au grand dam des Pakistanais, hein, qui font beaucoup d'agitation diplomatique. Ils pensent même solliciter la Cour internationale de justice. Le seul problème, c'est que pour solliciter la Cour internationale de justice, faut que les deux parties soient consentantes, ce qui n'est pas le cas de l'Inde, évidemment, qui ne tient pas à ce qu'on parle de la question du Cachemire au niveau international. Il y a un exemple très frappant d'ailleurs, au cours de cette dernière année, Imran Khan est allé plusieurs fois visiter les pays du Golfe pour réclamer un soutien économique parce que la situation financière au Pakistan n'est pas très bonne. Et ce qu'on observe aujourd'hui, il est allé dans les Émirats Arabes Unis par exemple, les Émirats Arabes Unis n'ont rien dit après la décision de Modi de supprimer l'autonomie du Cachemire. Au contraire d'ailleurs, Modi, entre ses deux passages en France, après Chantilly et avant Biarritz, est allé à Bahreïn aux Émirats Arabes Unis, où on lui a remis la plus haute distinction du pays. Imran Khan essaie de jouer sur la solidarité islamique pour obtenir le soutien. Il n'y a que Erdogan qui a soutenu la position du Pakistan sur le Cachemire, le président turc. Tous les autres n'ont absolument rien dit. Donc le Pakistan est isolé internationalement pour d'autres raisons. C'est la question du soutien à des groupes djihadistes imputés au service secret pakistanais. Mais puis un rapport de force économique entre les deux pays, entre l'Inde et le Pakistan, qui fait qu'aujourd'hui l'Inde intéresse toutes les grandes puissances occidentales. Même la Chine d'ailleurs. Il faut savoir que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Inde aujourd'hui.
Tout en étant un soutien en principe du
Pakistan.
Oui,
tout à fait, mais c'est aussi pour ça que la Chine n'a aucun intérêt à avoir la dégradation des relations entre l'Inde et le Pakistan. Ils ont des intérêts économiques bien plus importants en Inde qu'au Pakistan.
Est-ce que ce qui se passe en ce moment au Cachemire indien peut avoir des répercussions sur le sort de l'Afghanistan ? Qui veut répondre ? Olivier Dallage ?
Je pense que tout est lié, enfin c'est pas très original ce que je vais dire, mais Donald Trump veut absolument se retirer d'Afghanistan. Il a entamé des pourparlers avec les talibans, c'est pas les premiers, il y en a d'autres qui l'ont fait avec lui, mais Donald Trump veut vraiment aboutir et se retirer. Et il a lancé publiquement l'idée que ce serait une très bonne idée si les Indiens remplaçaient les Américains. Évidemment, les Indiens, qui sont pas sans expérience, trouvent que c'est une très très mauvaise idée parce qu'il y a que des coups à prendre. Mais je pense en effet que l'affaire du Cachemire s'inscrit aussi dans ce contexte-là.
Est-ce que le Lashkar-e-Taiba a des cellules au Cachemire indien, Gilles Bokhara ? Lashkar-e-Taiba, c'est ce groupe djihadiste qui est accusé d'avoir commis les attentats de Bombay en 2008, qui avait fait plus de 180 morts.
Oui, le Lashkar-e-Taiba, le Jaish-e Mohammed, forcément, il y a des cellules implantées au Cachemire indien. Hein. Il y a même la question de savoir est-ce qu'il y a une implantation qui pourrait se développer de l'État islamique au Cachemire si la situation continue à se dégrader sur place. C'est une possibilité liée à une radicalisation, née d'une frustration liée au fait qu'aujourd'hui, le Cachemire est sous coupe et fortement militarisé.
Le Pakistan, peut-être forcé contraint, avait arrêté en juillet le chef du Lashkar-e-Taiba, Hafiz Saïd.
Non, mais régulièrement, Hafiz Mohamed Saïd ou
Massoud Azhar,
oui, voilà, sont résidents surveillés, sont relâchés. Il y a un jugement de justice qui les relâche. Enfin, c'est un jeu. C'est généralement à chaque fois qu'il y a une décision qui va être prise, notamment par rapport au soutien financier international au Pakistan, on montre qu'on est un bon élève, qu'on arrête la personne, le dirigeant d'un groupe déclaré djihadiste, et puis une fois que la pression pression est retombée, qu'on a obtenu ce qu'on a voulu obtenir auprès des grands groupes, groupements financiers internationaux, on s'aperçoit que la personne est relâchée. C'est un jeu du Pakistan.
Mais un jeu dangereux.
Un jeu dangereux, mais qu'elle arrive assez bien à maîtriser jusqu'ici. Problème, effectivement, encore une fois, ce qui a été dit avant, c'est que il y a un retournement depuis les années 90, le temps où on avait besoin du Pakistan pour lutter contre l'Union soviétique à l'époque, le bloc communiste, c'est fini. À partir du début 90, c'est la fin de l'Union soviétique aussi, à laquelle, auquel l'Inde était à l'époque stratégiquement assez liée. Les grandes puissances occidentales ont clairement fait le choix de l'Inde contre le Pakistan. Évidemment, d'abord pour des raisons économiques, les marchés indiens sont bien plus importants que le marché pakistanais. L'Inde est bien plus solvable en plus. Donc c'est un peu le risque, encore une fois je reviens sur le thème de l'isolement aujourd'hui du Pakistan sur la scène internationale.
Donc Narendra Modi va continuer à garder les coudées franches, Jean-Joseph Boileau ?
Alors oui, parce que tout va dans son sens depuis quand même l'abrogation de l'article 370. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la façon dont la diplomatie française a essayé de garder quand même une position équilibrée qui remonte aux traditions des premières résolutions des Nations Unies, c'est-à-dire faire attention aux droits de l'homme, et puis rappeler que la stabilité de la région était très importante. Donc elle a joué son rôle, mais on voit bien que tout va dans le sens de donner à l'Inde un poids considérable. Et c'est pas seulement l'achat des 36 Rafales, mais quand vous prenez la France échange à peu près, exporte moins de 500 millions de dollars vers le Pakistan, elle en est à 7, bientôt 10 milliards de dollars avec l'Inde. Donc il y a un basculement qui est en train de s'opérer au profit de l'Inde dans ce genre de relations. Il y a un dernier papier extrêmement important d'un institut de stratégie qui s'appelle l'ORF, qui tire le bilan de cette, enfin de la présence de l'Inde et de Modi notamment au G7, et qui dit en gros le G7 devient moribond, c'est l'Inde qui commence en réalité à peser d'un poids réel. Donc on a vraiment quelque chose qui est en train de basculer à l'échelle du monde.
Olivier Dallage, votre sentiment sur la suite des événements dans les mois qui viennent ?
Si on se place du point de vue de Narendra Modi, il n'a rien à redouter au plan international, on vient de le dire. Il n'a rien à redouter au plan indien global. Il faut souligner à quel point cette poussée nationaliste aujourd'hui va dans son sens. Les Indiens et l'Inde ne se sont jamais sentis aussi sûrs d'eux-mêmes et d'elles-mêmes que ça n'est le cas aujourd'hui. C'est impressionnant. Donc la difficulté viendra du Cachemire, car on peut toujours dire qu'on va investir. Il a fait un discours pour dire que demain le Cachemire serait le pays de cocagne vers lequel tout le monde viendrait investir. C'est pas vrai. On sait très bien que dès que la chape de plomb se lèvera un petit peu, les problèmes commenceront. Et là, je pense qu'il n'a pas les recettes pour régler la question.
Gilles Bocquera.
Oui, non, mais on peut pas dire encore que Modi a gagné sur la question du Cachemire. Hein. Encore si demain se déclenche une nouvelle intifada avec des violations massives des droits de l'homme, là on est dans un schéma très différent. Le Pakistan, par exemple, sera peut-être plus entendu sur la scène internationale. Encore une fois, les semaines à venir seront cruciales pour savoir si les forces de sécurité indiennes déployées au Cachemire arrivent à contrôler la situation, ou effectivement si on est dans un schéma où ils ne contrôlent pas la situation, il y a des manifestations, il y a des personnes tuées, et là effectivement ça changera de beaucoup la donne.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Gilles Bocquera, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez publié « Le Pakistan en 100 questions » chez Talendier en 2018. Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'IRIS. Vous avez publié « L'Inde ancienne au chevet de nos politiques » aux éditions du Félin en 2017. Et « L'Inde pour les nuls » chez First en 2014. Et puis Olivier Dallage, rédacteur en chef à RFI. Vous avez publié « L'Inde, désir de puissance » aux éditions Armand Collin en 2017. Et puis vous venez de sortir Le Rickshaw de Monsieur Singh. Très bon roman, nous dit Jean-Joseph Boileau. Et puis je voudrais aussi rappeler que vous avez dirigé en 2018 L'essor des nationalismes religieux aux éditions Démopolis. Merci à Sophie Janin qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidée à la préparer. Bonne semaine à tous.